Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue dans Banquette saison 1, épisode 2.
Previously on Banquette.
J'étais accompagné de Vincent Duluc, et bah aujourd'hui je suis accompagné d'un président de club. Bon, je vais être honnête, on voulait Jean-Michel Aulas, Florentino Pérez ou Roman Abramovich, mais ils n'étaient pas disponibles. Donc du coup, on s'est rabattu sur Patrice Haddad, hein, président du Red Star, club historique de Saint-Ouen, en banlieue parisienne, fondé par Jules Rimet, le père de la Coupe du Monde. Alors Patrice a fait fortune dans le film publicitaire en créant sa société de production Première Heure, il y a maintenant une trentaine d'années. Une société mondialement reconnue dont le chiffre d'affaires se compte en dizaines de millions d'euros. Patrice est souvent présenté dans le milieu comme un révélateur de talent et un type qui prend beaucoup de risques. Un surnom qui n'a pas été usurpé, comme on le verra tout à l'heure, avec Pauline Gamère notamment, première femme directrice générale d'un club pro. En plus d'être un homme d'affaires averti, au bronzage à faire pâlir Nikos Aliagas d'envie et à la casquette Kangol dont se serait inspiré, selon mes sources, Samuel Lee Jackson dans Jackie Brown, Patrice est aussi un vrai amateur de sport. Passionné par le foot, évidemment, il a aussi joué au volleyball à bon niveau et aime passer du temps à jouer au golf. Ah, les clichés quand tu nous tiens. En 7 ans, Patrice a fait monter le Red Star de la CFA2 à la Ligue 2, redonnant le sourire au peuple vert et blanc. Dans cet épisode, Patrice Haddad nous raconte comment il a racheté le club, recruté son coach, fait parler la planète foot en nommant Pauline Gamère, évité une grosse arnaque pendant le mercato et sa relation mi-figue mi-raisin avec François Hollande. Alors juste une petite précision, cette interview a été enregistrée avant le début de saison, la deuxième du Red Star en Ligue 2. Avant de balancer le générique et l'interview, je me dois de remercier Blue Microphone, ou Blue Microphones comme on dit dans le Wyoming, pour le soutien apporté à Banquette et plus généralement à Nouvelles Écoutes. Ici, on enregistre tout avec leur micro Yeti Pro, mais en plus, personnellement, j'utilise aussi leur casque audio, le MoFi, un casque fermé qui offre un son incroyable. Alors j'ai bien regardé les spécificités avant de le prendre, et j'ai vu que c'était le premier casque audio avec ampli intégré. Alors honnêtement, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, enfin si un petit peu, mais bon, pas dans les détails. En tout cas, ce qui compte, c'est que le son est parfait, alors merci à Blue Mike de soutenir Banquette. On y va, Pat Le Guen, générique.
Régalez-vous. Et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
On va commencer par le commencement déjà. D'où te vient cet attrait pour le foot? Pourquoi le foot?
Le sport en général, et puis le foot en particulier, mais tous les sports, tout ce qui est esprit de compétition me plaît. C'est un peu la base de mon métier depuis que je le fais. C'est qu'on se lève tous les matins et il faut se battre et gagner le film qu'on va produire après, c'est-à-dire qu'on s'engage dans des aventures qui sont en général des beaux combats, et après il faut les réaliser, donc après c'est les problèmes à régler. Le football c'est un peu ça, c'est une passion, ça part d'une passion et après c'est que des problèmes à régler.
Oui, mais par exemple, dans ton métier de producteur, tu peux gérer vraiment ce que tu fais. Là dans le foot, tu as toujours une inconnue, c'est pas toi qui es maître de ce que tu fais vraiment, il y a les joueurs, il y a l'équipe adverse. Est-ce que ça, c'est pas dérangeant pour quelqu'un justement qui contrôle tout dans la vie de tous les jours?
Ça, c'est la différence entre l'adrénaline de ce qu'on écrit et de ce qu'on vit en réel, c'est-à-dire sans l'écrire. Et c'est ça la différence, elle est liée à une dose d'adrénaline, on sait que c'est ça ce qu'on va rechercher. C'est ce qui n'est pas écrit, justement, puisqu'on écrit tout, et là on n'arrive pas à l'écrire. Alors on essaie d'écrire au maximum quand même. On écrit le choix d'un coach, de joueurs, une tactique, puis après il y a l'impondérable.
Justement, tu parles comme un connaisseur et je pense que tu te définis comme un connaisseur du football. Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose dont on a besoin absolument pour réussir dans le milieu du foot, en tant que président?
La naïveté et l'insouciance m'a aidé, moi, dans mon métier aussi de producteur, parce qu'on n'étudie pas le métier de production il y a 30 ans, ça peut l'être un peu plus aujourd'hui. Mais moi, je pense que l'insouciance et la naïveté peuvent aider. Il faut essayer de la perdre le moins possible. Donc oui, on peut être connaisseur, mais on peut être toujours dans l'insouciance de la question que l'on pose, qui normalement ne se pose pas, et d'une réponse qui peut permettre peut-être de faire avancer certaines choses. Moi, je ne me pose pas la question quand je nomme une femme directrice générale du club, alors qu'il paraît que c'était la première, quoi. Jamais j'ai analysé le fait qu'il n'y avait pas de femme dans le football.
C'est surtout que c'est un milieu qui est très macho dans l'absolu, et c'est vrai que mettre une femme à ce poste de responsabilité, c'est une première, Bon, bah après, c'était une question que je voulais te poser, justement, savoir si ça t'avait traversé l'esprit de te dire que ça allait être difficile. Pour l'instant, ça se passe très bien. Est-ce que tu envisages, justement, de ramener d'autres femmes, par exemple, hein, dans ton comité directeur, dans...
D'autres compétences. Ça peut être un enfant de 12 ans. Ça peut être une femme. Ça peut être... C'est de la diversité. C'est ce qui va m'apporter au moment recherché, ce que j'ai besoin. Et franchement... C'est de la discrimination positive. Hein. C'est,
oui.
Voilà. Il n'y a pas de limite à ceux qui peuvent venir apporter de la compétence.
C'est beau.
Ouais, c'est beau, il faut le faire, c'est tout.
Par exemple, pour Pauline, c'est vrai que ça se passe bien, et j'ai lu que les joueurs avaient un petit peu peur d'elle, entre guillemets. J'ai lu, par exemple, que quand tu proposais des doubles primes à tes joueurs, ils venaient vite te demander si Pauline était d'accord avant... ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse ou ça t'agace un petit peu qu'on l'appelle la patronne?
Non, mais moi c'est au contraire, parce que c'est une place qu'il faut laisser prendre dans le football. Le président à la française, moi, m'emmerde un peu, parce que c'est la place la plus médiatisée, la plus médiatique, à la Aulas, à Brune, etc., etc. Et je crois que ce jeu est un jeu de médiatique qui met une visibilité qui est pour moi pas ma nature. Donc j'aime bien ce que, d'abord... les compétences soient mises en place. Et c'est vrai que quand on arrive dans un milieu dont c'est pas le sien, et je sais que le football est quand même très chronophage et avide de moyens, je pense que ce garde-fou qui a été mis, cette réflexion sur les moyens, était important. Donc je respecte effectivement, et je me retourne vers la directrice générale avant de voir si elle valide la double prime.
Par exemple, dans le fonctionnement au quotidien du club, par exemple, sur les transferts ou les négociations de contrats, est-ce que tu laisses Pauline, donc Gamère, directrice générale, et Steve Marley, qui est le directeur sportif, gérer ça, ou est-ce que tu interviens aussi?
Je suis très intrusif, je suis très demandeur d'informations, et je suis très participant à la décision. Rien ne se fait sans qu'on le fasse de manière commune. Et même quand je ne suis pas d'accord, je laisse faire et je le dis, mais parce que ça fait progresser. Ça fait progresser dans les deux sens. Parce que si je dis que je ne suis pas d'accord et que ça marche bien, c'est à moi de progresser. Et si je dis mon désaccord et que ça ne marche pas, c'est à eux de progresser. Donc je pense que c'est un échange qui fait sur la concertation sans veto absolu, parce que chacun doit s'exprimer et s'épanouir. Et c'est vrai que dans le recrutement et dans les propositions de Steve de l'année dernière, il y a eu des choses intéressantes et des choses qui n'ont pas été concluantes. Les points de vue de Pauline ont été aussi à réinterpréter sur des bonnes et des mauvaises choses, et les miens aussi. Et je pense qu'en additionnant les bonnes choses des trois, ça peut faire un bon tout. Mais il y a quand même des erreurs commises.
Mais par exemple, alors on va prendre le cadre d'un transfert classique. Comment est-ce que ça se passe de A à Z? On m'a dit, par exemple, Julien, le producteur de l'émission, que tu avais une excellente anecdote sur un Brésilien à me raconter.
Bah, ça fait partie de la naïveté et de l'insouciance. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de... Et puis on l'a vu sur de grands clubs, avec des cellules de recrutement super au point. Il y a du vice un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, comment on arrive à caser un nanar, hein. C'est aussi...
Les agents qui interviennent, voilà, pour
les intermédiaires, etc. Moi, je me suis retrouvé carrément en face d'un faux Brésilien, faux joueur, faux tout, faux CV, fausse information de coach avec des imitateurs, enfin un montage d'une mise en scène extraordinaire, super. Ça nous a coûté un peu d'argent, mais tout petit peu, parce que c'était juste des frais. Mais franchement, il est mérité.
Mais tu t'en es rendu compte à quel moment exactement que c'était pas un vrai joueur avec...
Avec ma parano habituelle. C'est qu'à un moment donné, je trouvais les choses trop idylliques.
Oyez, oyez ! J'interromps l'interview quelques secondes pour vous prévenir que les 10 prochaines minutes ont été enregistrées quelques jours avant, dans une autre salle. Donc forcément, il va y avoir une petite différence de son.
Ils viennent attaquer les clubs frais et tendres, où des présidents arrivent et s'installent, etc. Et où il y a une excitation. On a toujours peur de rater un joueur. On a toujours peur de rater le grand coup du joueur. Et donc, c'est Giroud qui appelle au club. Au club, en disant, j'ai un joueur. Il a un contrat à Hoffenheim en mars, mais il ne peut pas, pour des raisons administratives, y aller. Il faut d'abord qu'il passe par un club français. Et administrativement, quand il raconte des choses comme ça, c'est vrai. Donc on vérifie. On reçoit la copie d'un courrier d'Offenheim, comme quoi il l'embauche à partir de mars avec un transfert ou la prise en charge de ce qui a été payé, etc. Et ils disent, mais c'est simplement la seule chose, c'est qu'il faut qu'il trouve un club pour les 6 mois, ou l'année, parce que je suis sûr qu'Offenheim, etc. Et c'est Giroud qui laisse ce message-là au secrétariat du club. Je rappelle le numéro et je rappelle Giroud. Et j'ai Giroud au téléphone. Et il me dit, président, il faut essayer ce joueur, vous allez voir, c'est la pure folie, quoi. Et en plus, vous serez remboursé, vous aurez même peut-être un peu plus d'argent, etc. J'étais pas à Paris, je reviens d'urgence à Paris avec mon ami. On voit le joueur à 7h du matin arriver de l'avion, sans bagage. De loin, je me dis, ça peut pas être lui, quand même. Mais si, c'est lui. Visage un peu vieux, teinture, les cheveux, etc. Mais bon, tout petit pied, tout petit pied. Du 34 ou du 35. Et puis, commence les embrouilles, on dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrive de l'avion, mais t'as pas de bagages? Ah ben non, ils ont perdu les bagages, avec mes chaussures, tout mon truc. Ah bon? Est-ce que tu peux venir à l'entraînement demain matin? Oui. Ah mais j'ai pas d'argent sur moi, l'hôtel, le machin. Bon ben voilà, on te met à l'hôtel, voilà pour manger demain, machin, à demain, à l'entraînement. Le lendemain, à l'entraînement, il vient. Test physique, au-dessus de la moyenne. Pas de chaussures, donc il était en basket pour jouer au foot, etc. Et on commence à jouer avec le ballon, et là, on sent quand même beaucoup d'évitement avec les ballons, je laisse passer la balle entre les jambes, et j'évite, et je cours beaucoup. Une sensation un peu bizarre. Il y avait entraînement le matin, entraînement l'après-midi, c'était un lundi. Moi, je l'avais vu le dimanche, mais bon. J'avais quand même une sensation très bizarre, quoi. Et entre l'entraînement du matin et l'entraînement de midi, on devait lui signer un pré-contrat. Et puis, je sais pas, une lumière qui m'arrive, je me dis, mais c'est pas possible, faut que j'appelle Giroud, quoi. Et je demande trouvez-moi le numéro de portable de Giroud. Mais je voulais donner, non, pas celui-là. Essayez de trouver si Giroud, c'est ce numéro-là, quoi. Et en fait, tout ça a été monté. C'était un imitateur, Giroud. Et ils font tout pour que vous signiez ce contrat. Et une fois que vous avez signé le contrat, vous devez les payer. Les mettre dans le truc et vous devez ou résilier le contrat pour le faire partir, parce que vous êtes tellement ridicule. Et dans notre équipe, on avait un Brésilien. Quand on se voit, on parle encore. Dantas, Wellington Dantas. Et je lui dis, va lui parler brésilien pendant entre les jeux. Et il revient vers moi, il me dit, mais il est bizarre, il veut parler que français. Il dit que le Brésil, c'est fini, il a une histoire au Brésil. Et ils avaient fait ça chez nous et à Guignon, où il y avait Tony Vérel à l'époque qui tenait Guignon. Parce que comme vous avez peu de moyens, que ces joueurs-là sont pris en charge, qui demandent moins que la moyenne et que c'est des génies, vous dites, putain, à la revente ou machin, etc. Mais bon, on ne s'est pas fait avoir. En fait, c'était un coup monté. On est reparti à l'hôtel, bloqué ses affaires, amené ça au commissariat en disant que machin. Et il avait fui, il avait laissé ses affaires, il n'y avait rien dedans. Il avait fui entre les deux entraînements, quoi.
On ferme maintenant notre parenthèse. J'espère que vous êtes régalés comme moi sur cette fameuse histoire de faux transfert brésilien. Et on revient maintenant à la première salle et à notre son de cathédrale. Bisous.
Dans les joueurs qui ont des, joueurs ou entraîneurs qui ont des parcours un petit peu atypiques, ton entraîneur actuel, c'est Rui Almeida. Mmh. Alors, j'aimerais comprendre comment est-ce que te vient ce nom. Parce que concrètement, Rui Almeida, il a un passé, ça fait 20 ans qu'il est dans le foot, mais il a toujours été adjoint. Mmh. Il a une expérience en entraîneur professionnel, c'est pour la Syrie Olympique, donc il y a quand même un peu plus sexy. Mmh. Et là, quand tu vas le chercher, il est aux Zamalek en Égypte. Mmh. Donc c'est un gros club, mais c'est en Égypte. Mmh. Comment te vient ce nom? Pourquoi?
Tu sais, quand on n'a pas de moyens, il faut être un peu plus créatif que la moyenne. Et donc, ce que je demande, et c'est vrai qu'on avait orienté 2-3 pistes, c'est que je savais les conditions qu'on allait avoir à monter. Monter en Ligue 1, en Ligue 2, on l'a fêté, ça a duré un quart d'heure. Enfin, ça a duré plus longtemps, mais la joie a duré un quart d'heure. Parce qu'on est en face d'une réalité après. De moyens, et puis de compétition, compétitive. Donc ça veut dire que les moyens sont relatifs à cet esprit de compétition. Et pas de structure, pas d'infrastructure, peu de moyens. Et première année de Ligue 2, il faut stabiliser. J'ai rencontré pas mal d'entraîneurs qui déjà s'excusaient avant de commencer des mauvaises conditions, en disant ça va être dur. Hein. Et donc j'ai donné un profil de quelqu'un qui relèverait le challenge, qui est passé par des expériences difficiles, mais sur lesquelles il s'est révélé positif. Et donc je suis tombé sur Rui Almeida, voilà, c'est un adjoint à Zamalek, effectivement. J'ai fait 2 Skype avec lui. On a discuté un peu football, un peu conditions. Je lui ai parlé exactement de la situation du club. Et il a décidé de quitter Zamalek vers la fin de saison pour venir me rejoindre. et de lever le challenge du projet.
Mais il n'y a pas même une fraction de seconde où tu t'es dit que justement le club venait de remonter en Ligue 2, c'est ce que tu espérais justement pour 2015, et de prendre quelqu'un qui a un profil d'adjoint, à aucun moment tu t'es dit c'est peut-être pas une excellente idée.
Mais il faut qu'on trouve notre personnalité, et donc de recycler ce qui est recyclable et ce qui est recyclé use, franchement. Je crois qu'un club comme le nôtre doit apporter sur le marché un point de vue, des risques, de la créativité, des expériences nouvelles, et c'est comme ça que je conçois l'entreprise, et c'est, je trouve que c'est notre part de créativité aussi, de risque. Oui, j'en ai pris plein la gueule. J'ai embauché un préparateur physique. Mais moi, il y a deux choses, certaines choses qui me plaisaient. C'est que déjà, au Portugal, on apprend le football à l'université. C'est déjà une base.
Oui, parce qu'il a Rui Almeida a notamment travaillé avec Leonardo Jardim, pardon, qui est maintenant entraîneur de Monaco au Sporting. C'était son adjoint, qui est lui justement vu comme un esthète du football et un ingénieur, parce qu'effectivement, il travaille ça à l'université avec des diplômes.
Bon, donc il y a une vue d'ensemble un peu plus technique. Et puis, je crois que ils ne parlent pas football, ils font football. Voilà. Moi, je crois que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont plus de rôle à jouer dans le football, mais qui en parlent tellement. Et c'est fatigant, quoi, d'en parler. Moi, je préfère être fatigué de voir ce que je vois sur le terrain, du travail qu'ils fournissent. Cette fatigue-là, elle est réelle. Et franchement, c'est pas par hasard qu'on ait fait cette saison dernière. Je suis bien tombé, j'ai eu de la chance. Mais j'ai eu aussi de la chance de garder. Parce qu'après avoir subi toutes les attaques du marché, pourquoi je vais chercher un Portugais d'Égypte, etc. On a essayé de me le débaucher quand même à partir du mois de mars.
Non, mais c'est bien. Est-ce que tu penses que c'est justement avec ce genre de coup que tu peux réussir à devenir réellement le deuxième grand club de la capitale? Parce qu'il y a des grands clubs dans tous les championnats d'Europe, dans plusieurs villes, en France, jamais. Pourquoi?
Ça, je peux expliquer moi pourquoi. C'est-à-dire, je le vis au quotidien, pourquoi. Il ne suffit pas de dire pourquoi il n'y a pas de deuxième club. Pour le faire, c'est très, très compliqué. Chaque année, je cherche un stade, déjà. Okay, un centre d'entraînement, etc. Donc, à quel moment on va trouver une maison, une infrastructure qui va nous permettre de dire on joue à la maison, etc. C'est déjà... Même d'autres clubs peuvent le dire, ça. Est-ce que Charletti est une maison du football pour pouvoir en faire un grand club? Stade Boer aurait pu l'être, mais il le sera peut-être, puisqu'on rediscute maintenant. Donc ce deuxième club parisien, c'était une volonté politique. Une volonté politique à un moment donné où cette question elle se pose, où les municipalités, les collectivités n'ont plus d'argent. Donc même s'il y a une volonté politique, il n'y a plus les moyens pour suivre. Donc il faut une volonté privée de le faire. Une volonté privée, c'est de dire au demain, si jamais un Chinois ou un Russe on me propose ou on me soumet, Bruno Leroux, député de Seine-Saint-Denis et président du Parti Socialiste à l'Assemblée, qui dit mais il faut qu'il mette un Chinois à la place. Mais pour investir où et quoi? Qu'est-ce que je lui vends au Chinois? Je lui vends la marque Red Star, basta. Il n'y a même pas de stade. Ah si, peut-être pour le Stade de France. Peut-être.
C'était quelque chose qui était prévu, en tout cas au départ, quand le Stade de France a été créé. On voulait, le Stade de France, on voulait faire du Red Star le club résident. Est-ce que à un moment, enfin je sais pas, puisque l'année dernière vous avez joué à Beauvais, vous avez bougé un petit peu à Charletti, là vous allez jouer à Jambouin, au final vous jouez jamais dans votre stade. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour vraiment solutionner ce problème-là? Est-ce que effectivement il y a les investisseurs? Est-ce qu'on peut, je sais pas, générer des revenus?
Non, il faut. Encore, on va me laisser encore faire un bout de chemin qui est particulièrement le plus difficile parce qu'il est sans grands moyens. Mais déjà, d'être à Jambouin, c'est de montrer ou de démontrer qu'on peut avoir un public. À chaque fois que j'ai eu la liberté de pouvoir choisir, quand on fait la 32e Coupe de France et qu'on prend le Stade de France pour faire Red Star Marseille, le 19 janvier on tire l'OM, le 20 janvier je boucle le Stade de France, le 7 janvier. Le 20 décembre, le 7 janvier, on met 52 000 personnes dedans. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Alors, c'est peut-être le Marseille qui a attiré. Mais bon, je ne sais pas s'il y a un Red Star, un Marseille-Créteil ou un Marseille-PFC aurait attiré 52 000. Le Red Star a quand même une mémoire collective qui attire. Nous, notre travail aujourd'hui, elle n'est pas de réveiller cette mémoire collective, elle est d'intéresser les 7-15 ans. C'est ça notre travail. En revenant à Jean-Bouin, moi, les parents qui viennent, en me demandant des invitations, des amis, je dis, tu viens avec tes enfants. Je t'invite. Tu viens pas seul. C'est les enfants qui doivent aujourd'hui faire en sorte que le club va exister, va être une alternative à d'autres grandes marques. Et le Restart doit être une grande marque dans le cœur des enfants.
Tu me parlais justement de le 19, vous tirez Marseille, le 20, tu boucles le Stade de France. Comment ça se passe exactement? Comment est-ce que tu prends ton téléphone et que tu appelles
Philippe Auroy, qui était le directeur général, en disant j'ai envie de prendre le risque. Est-ce que tu viens avec moi et est-ce que tu réfléchis à une participation, à une coproduction? Ça, c'est mon métier à côté. Et il a pris 2 heures, il m'a rappelé, il m'a dit ok, on fait une coproduction. Et on était en risque tous les deux. Mais le fait de le mettre en risque, c'est que tout le service marketing s'est mis en place, on a raconté des histoires, on a raconté une histoire, et on a mis 52 000 payants dans le stade. Et tout le monde a gagné de l'argent.
Mais c'est un risque au départ, parce que ça se monnaie.
C'est un risque. Le Stade de France. La fédération ne prenait même pas au téléphone, tout le monde se marrait, la presse ne voulait même pas parler. Ils pensent qu'on allait faire 5 000. Mais c'est en se confrontant à ce genre de choses que le Red Star grandit petit à petit, millimètre par millimètre. Mais Jean-Bouin, là, c'est la même chose. Si je mets 1500 dans le stade toute la saison, c'est fini, il n'y a plus de Red Star. On va faire un stade de 4000, et on n'a pas à prétendre plus. On va faire un stade de 5000 places, et puis voilà, on joue dedans. Mais si on arrive à faire quelques affiches à 15 000, 14 000, si on monte en puissance au niveau sportif, etc., si on est bien placé, quelles histoires on va raconter, si on arrive à faire de l'entertainment un petit peu autour de ça. Alors, ce n'est pas dans l'ADN du Red Star, le show autour du Red Star. En même temps, on doit attirer. Donc il faut que je trouve des idées. Il y en a une, je me devais de mettre sur le maillot quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de dire merci. Et donc samedi, sur le maillot, on dit merci.
À la place du sponsor.
À la place du sponsor.
Et est-ce que, dans les remerciements, tu as envie de dire merci, au moins un petit peu, à François Hollande, qui est venu l'année dernière, en janvier 2015, pour...
C'est le dernier à qui je penserais dire merci, parce que c'est un soutien amical, extraordinaire, politique, invivable. Parce que c'est trop clivant, et on ne doit pas être le club d'un parti, ni d'un homme, etc. Mais je pense que lui, il ne le fait pas, il oublie qu'il est président de la République quand il le fait, parce que derrière, on ne lui demande rien, et il ne nous apporte rien. Donc il le fait en tant que supporter réellement. Et c'est son côté un peu sympathique d'ailleurs du personnage. C'est qu'il est assez naturel par rapport à ça. Un match important, on joue à Boer contre Strasbourg. Le matin à 11h, on nous annonce que le président doit arriver. Et là, branle-bas le combat. On ne pense plus qu'à ça. On a dû faire la plus petite recette de match. Et à 19h40, il dit qu'il ne vient pas. Voilà le genre de rapport qu'on peut avoir avec Hollande.
Mais donc, il t'a jamais aidé indirectement, parce que justement, devant les médias, il y avait eu des mots comme on va demander à Thierry Braillard ou à Patrick Caner d'aider pour le stade.
Le ministère a aidé sur la mairie de Paris. Enfin, vous savez, ce sont des mots. Il n'y a pas d'action concrète. Il n'y a pas d'argent possible du ministère, il n'y a pas d'argent possible de l'Élysée. Donc, ce sont simplement des souhaits. Les souhaits, on en a beaucoup hein, dans un gouvernement. Et quand il s'agit d'un club, oui, il souhaiterait utile qu'il y ait un deuxième club parisien. Mais est-ce que ça en fait un deuxième club parisien? Mais je pense que les clubs, en fonction de leur ADN et de leur positionnement géographique, peuvent apporter des changements de nature d'une ville. Regardez Lens. Lens ne pourra jamais mourir, on le sait. Le Red Star se doit de ne jamais mourir.
Lens a failli quand même, avec justement
François Hollande qui était venu. Mais le Red Star, ça fait 120 ans que ça a failli mourir. C'est pareil. Ce sont des start-up toutes, sans arrêt, qui se renouvellent, qui se régénèrent, mais elles ont un rôle essentiel, social, citoyen, éducatif, on ne s'imagine même pas. Parce que là, on parle de l'équipe une depuis tout à l'heure. Mais les 600 mômes avec les 600 familles autour, le rôle éducatif qu'on a, ils sortent de l'école, ils viennent au stade, le rêve des enfants de devenir joueurs professionnels, etc., etc. Cette accessibilité, cette proximité, elle sauve des familles entières. Hein. C'est ça la réalité.
Et justement, dans le profil éducateur, il y a un moment, on avait parlé de Domenech.
Non, mais ça ne s'est pas fait. Et puis, il n'y avait aucune intention que ça se fasse. Moi, j'aurais aimé qu'il puisse participer à un moment donné à la construction d'un club, mais pas sur le terrain.
Et ben alors, pourquoi ne pas Je sais pas, maintenant c'est vrai que c'est un truc qui est à la mode, c'est le fameux conseiller du président qui vient dire prends ci, prends ça.
Non, pas de conseiller. Non. Je veux que les conseillers risquent leur place. Non. Il n'y a pas de conseiller. Ceux qui prennent des décisions, c'est ceux qui sont en poste, et ceux qui, avec des mauvaises décisions à l'encontre du club, peuvent risquer leur place. Non, pas de conseiller.
Pour en revenir un petit peu aux joueurs, dans tes journées type, est-ce que ça t'arrive de recevoir régulièrement les joueurs pour, je sais pas, ils ont un petit souci ou quelque chose, ils veulent te parler? Est-ce que tu le fais de façon formelle ou est-ce que vous prenez rendez-vous avant pour...
Je suis contact très rapide, circuit très court, les choses se règlent en un quart d'heure.
Donc t'es plus le papa poule du club plutôt que le conseiller de rotation?
Non, mais en face d'une réalité qui sont parfois les problèmes d'une vie ou les choix à faire, etc. Mais je suis disponible pour parler de ce genre de choses. Pas pour parler d'un bobo ou d'un mal-être, ce genre de choses, mais pour parler de carrière, pour parler de... Moi, j'ai accompagné des artistes pendant une vingtaine d'années dans le développement de leur carrière. Le développement de la carrière d'un joueur, ça m'intéresse aussi.
Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui te... On va dire de primordial quand tu recrutes un joueur? Est-ce que tu te dis, je prends ce joueur-là pour qu'il se jette dans un projet avec le Red Star et qu'il reste sur 5 ans par exemple, ou est-ce que de temps en temps tu tentes des coups en disant voilà, je prends ce joueur là il va m'apporter quelque chose pendant 6 mois, 1 an et après on l'enlève?
Il n'y a pas d'abord de réflexion sur la spéculation. C'est comme l'art, si on achète pour vendre, on achète différemment, et il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de réflexion sur la spéculation. Ensuite, je pense que les choix se font énormément sur un confort d'éducation. C'est-à-dire que la personne qu'on a en face de nous nous convient au quotidien. Dans son comportement, on a toujours parfois des déceptions ou même parfois des bonnes surprises, mais on ne prend jamais quelqu'un pour sa valeur sans savoir si la valeur humaine est quand même en place.
Si par exemple tu as un joueur qui est vraiment au-dessus du lot par rapport à soit à la Ligue 2, soit à ton groupe de joueurs, par exemple, mais que tu te dis que mentalement ça colle pas, tu le prends pas.
Ça nous est arrivé de ne pas les prendre.
Donc demain, Ibrahimovic veut signer au Red Star, il signe pas.
Mais moi, je l'aime bien.
Oui, mais il est caractériel. Donc du coup, ça colle pas tout à fait.
Mais
avec...
vous savez, moi, tous les plus grandes difficultés que j'ai eues sont avec les grands artistes, hein, au niveau caractère. Et à la fin, ils délivrent. Donc c'est des gens qui sont généreux quand même à la fin.
Mais donc il y a des exceptions. Ouais, d'accord.
Mais c'est pas de cette mentalité-là que je parlais. Des caractères forts. Les caractères forts m'intéressent. C'est les mauvaises mentalités, c'est une égocentrie qui peut être malsaine.
Pour revenir un petit peu vraiment au tout début, il y a un truc, une question que je me pose et qui m'intéresse, c'est qu'avant d'être président du Red Star, tu as été actionnaire minoritaire à l'entente Sannois-Saint-Gratien.
Ouais.
Comment est-ce qu'on devient actionnaire minoritaire d'un club ou actionnaire d'un club?
Parce qu'il y avait un tour de table qui se faisait à cette époque et ça m'intéressait de rentrer de manière un peu anonyme dans un système pour le voir et le comprendre.
Mais qui te prévient? Est-ce qu'il y a un pôle emploi?
Non, parce que je connaissais Luc Dayan.
D'accord.
Voilà. Je connaissais Luc Dayan et Luc avait ce projet. Le tour d'étape était complet et puis il y a eu quelqu'un qui s'est désisté et puis j'ai pris sa place. Voilà. Et j'ai pu participer pendant 2-3 ans avec eux à la construction de ce club.
Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, pendant que tu es à l'entente, en 2005, tu viens faire le médiateur pour le Red Star?
Non, je quitte. Je reste à l'entente. Oui. Et je frappe avec un ami à moi. On s'arrête devant le Red Star. Je dis, écoute, voilà, allons vraiment dans ce qui nous motive. Et ce club nous motive. Il est dur à reconstruire, mais peut-être allons voir. Et il a été frappé à la porte et on est tombé dans un moment de grève, de putsch interne et tout. Et bien, j'étais voir les actionnaires et je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien, parce que ça, plus personne ne s'occupait de rien, venir vous aider à réfléchir sur... Il fallait gagner 6 matchs pour monter en CFA, à finir cette fin de saison, mais je vous demande en échange 18% au nominal pour entrer dans le club, etc. Et puis je suis devenu médiateur, ils m'ont nommé, mais franchement, je venais de nulle part. La seule crédibilité, c'était que j'étais à l'entente de Saint-Gratien. Et Jean-Luc Girard, qui était l'entraîneur, il était à Clairefontaine, les joueurs en grève, les présidents à droite, à gauche. J'ai remis tout ça en place, fait un projet sur les 6 derniers matchs, et on les a gagnés. Ça, je pourrais déjà écrire un bouquin dessus.
Mais justement, le fait qu'il y ait ce contexte particulier, limite de guerre civile, plus tout le poids historique du Red Star qui a été fondé par Jules Rimet, c'est le père de la Coupe du Monde, donc c'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est pas plus compliqué justement de faire renaître un club de ses cendres plutôt que d'en monter un de A à Z?
Non. Mais c'est dur de le reconstruire aussi. Mais l'avantage, c'est que vous arrivez dans un endroit où il y a très peu de salariés. Il y a un très mauvais environnement, ça c'est sûr. Il y a très peu de salariés à l'intérieur. C'est le désert. Et donc vous construisez des choses scratch. Et avec ça quand même, ça a été très compliqué pour réorganiser. Mais parce que même les éducateurs ont un rôle très très particulier. Tout est un système à l'intérieur très opaque, très particulier, un club de foot. Et donc il fallait réorganiser ça comme avec une transparence absolue. Et ça a pris du temps. Ça a pris 7 ans pour monter en Ligue 2. Et je suis dans le club depuis 2005.
Mais c'est ce qui était prévu. J'ai le souvenir de en 2015, on sera en Ligue 2.
Ouais. On a eu de la chance.
Au final.
On a eu de la chance.
Bon. C'est quoi les chiffres du loto de la semaine prochaine? On va tenter.
Moi, je joue toujours les mêmes, donc
ça marche.
J'ai pas encore gagné.
Pas encore. Mais justement, en parlant de, je sais pas, moi, il y a quelque chose que je comprends pas dans le foot et la présidence. C'est quand on réussit à monter un empire, faire fortune quelque part, donc à mettre sa famille, ses proches, etc., à l'abri du besoin. Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on va aller dépenser tout cet argent-là dans un club de foot où on sait qu'on gagnera pas d'argent? Il y a un petit côté sadomaso là-dedans.
Moi, j'ai investi quand j'ai fait du long métrage, j'ai investi quand j'ai monté cette structure, j'ai investi, j'ai perdu de l'argent quand j'ai monté d'autres structures. Il y en a qui en ont gagné, il y en a qui ont perdu. C'est le monde des affaires, c'est pas particulier au football, ça.
Sur un club de foot, on peut quand même difficilement gagner de l'argent. On en gagne quand on revend le club après. Mais
demandez à Loïc Perry s'il perd de l'argent. Loïc Ferry de Lorient. Demandez à Arsenal s'il perd de l'argent. Demandez au Bayern de Munich s'il perd de l'argent.
À côté de ça, on peut demander au Paris Saint-Germain s'ils perdent de l'argent, à Monaco s'ils perdent de l'argent.
Oui, et dans les entreprises, moi, j'ai des maisons de production qui ont fait faillite l'année dernière.
Mais donc, c'est un risque à prendre. C'est pas un côté.
C'est pas
la passion qui prend le dessus.
C'est
sur.
C'est pas une fatalité de perdre de l'argent en football. Et c'est pas une passion. C'est qu'on aime ce qu'on en fait, comme tout. Mais je suis passionné aussi dans la production. Mais c'est pas une passion, c'est pas une danseuse. Je fais pas ça pour faire mes muses et pour m'exciter un tout petit peu parce que je m'emmerde. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est une entreprise. Donc je prends énormément de plaisir à construire marche par marche, comme j'ai fait dans la production. Mais avec le risque du secteur. Quand on se trompe, si j'avais signé ce Brésilien faux joueur, c'était un risque. J'aurais payé cher. Il y a eu des licenciements très lourds dans le club quand je suis arrivé, que je paye encore aujourd'hui. Il y a des risques dans toutes les entreprises. Mais le football, ça dépend pour moi d'une chose, c'est de la patience que vous avez. Si vous êtes impatient, c'est que vous êtes très très riche.
En parlant de très très riche, t'as investi combien pour l'instant dans le club?
Sur 10 ans, 8 millions.
De ta poche?
Oui.
Sans compter les sponsors, les subventions,
oui,
etc.
Non, c'est en fonds propres.
Pas mal.
Oh, ça m'est arrivé d'en perdre plus ailleurs.
Ouais, mais déjà 8 millions dans un club de foot, c'est quand même pas mal, en soi.
En 10 ans, c'est correct. Par rapport à, je pense, une valorisation possible sur si on réussit notre coup.
Et ça serait comment, par exemple, une valorisation possible?
C'est d'arriver à un moment donné à un club qui soit structuré avec son centre d'entraînement sur lequel on vient de signer un accord déjà pour un AOT. Ou alors un actif d'un stade, c'est un actif.
Est-ce qu'un système...
Un centre de formation qui est pour moi la base. Si j'ai un rêve, c'est ça. C'est le centre de formation.
Mais ça, qu'est-ce qui manque pour le lancer, justement, ce centre de formation, pour le mettre en
place? Un peu de stabilisation en Ligue 2, parce qu'il faut être pro et... Bon, mais là, on dépose les dossiers, maintenant. Et puis, trouver le lieu. Et puis là, je pense que c'est une part d'investissement qui est d'une autre nature, parce qu'il faut acheter du bâti ou alors construire. Il faut acheter du terrain. Il faut mettre... Voilà, il y a quand même un système, un centre de formation, c'est un système qui est au quotidien en place, c'est pas de jouer des compétitions à la fin de la semaine. C'est sur la pérennité, c'est sur le temps. On a vu ce qui a sauvé Lyon, hein, c'est ça. On a vu un centre de formation comme Marseille, qui n'a ni queue ni tête, alors qu'ils ont un centre de formation. Moi je sais que ce centre de formation sera un filtre sur la France.
Mais justement sur ce centre de formation-là, puisque l'Île-de-France c'est quand même un territoire qui est prisé par tous les recruteurs, comment est-ce que toi tu parviendrais à tirer ton épingle et à attirer des joueurs chez toi plutôt qu'à Paris, Monaco, Bordeaux?
Nous on va
etc.
prendre une chose, et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, on n'invente rien en faisant ça, mais la proximité familiale. Ça veut dire qu'on sera dans un rayon de 50 km. Le week-end il n'y aura pas de déracinement familial. parce qu'elle est violente quand même. Mmh. Il est violent ce déracinement familial à 13 ans. Je sais pas, moi à 13 ans, j'étais pas construit pour pouvoir partir et jouer au football toute la journée et faire des études à 10 dans une salle. Bon, sans plus voir ses parents, etc. Donc quand vous faites ça et que vous partez ou à Monaco ou à Sochaux, ou à... on va faire une alternative pour les gens de la région parisienne, l'Île-de-France, de dire, ben voilà, vous avez une proximité.
On parlait tout à l'heure, j'en reviens à ça, de la valorisation du club. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, parce que je sais que tu aimes beaucoup Liverpool, d'avoir vraiment les fans au sein du club et de faire un système, par exemple, de socios comme en Espagne?
Oui, je rêverais de ça, mais est-ce que ça existe, est-ce que c'est... Je sais que Marseille tente de faire ça en ce moment.
Saint-Etienne aussi.
Saint-Etienne. Mais... est-ce que c'est dans la culture? Ça ne peut pas partir de moi, en tous les cas. Ce n'est pas moi qui dois le diriger.
Mais justement, puisque c'est un club populaire et familial, est-ce que... mais... enfin, moi, je ne sais pas, de l'extérieur, je me dis que c'est... je trouve ça plus logique que ça se fasse au Red Star qu'à Marseille, par exemple.
Oui, mais moi, j'ai soutenu l'action qu'a fait le collectif Boer pour attirer des fonds ou des adhérents pour rénover Boer, etc. Et franchement, je trouve que ça a été super bien mené. Ils ont pris un fonds de crowdfunding là-dessus. Ils y ont été, etc. Mais je crois qu'ils arrivent à 1200 personnes. Ils en voulaient 3000. Mmh. Et ça fait 6 mois que c'est lancé. Donc, c'est plus dans la culture. Mais il faut des initiatives de ce genre. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on a en retour? Est-ce que c'est de l'intrusion? Est-ce que c'est si... cette culture espagnole, cette culture anglo-saxonne, par moment, il n'y en a pas en Angleterre, mais on pourrait considérer que l'abonnement qui se passe d'année en année, depuis des générations, est une sorte de socios, même si ce n'est pas une forme socios. On revend son siège, quoi, en Angleterre. Bon, j'aimerais qu'on aspire à ça, mais de toute façon, on va aller vers ça. Obligatoire. Obligatoire, c'est-à-dire que dire qu'aujourd'hui les stades ne sont pas pleins, c'est une progression qui sera obligatoire. C'est de l'entertainment, c'est du spectacle, c'est relayé par les médias, c'est ce que la planète propose de plus universel, c'est le football. On ne va pas, en France, ne pas y aller. Quand les États-Unis avaient 300 chaînes, qu'on en avait 2, on ne pensait pas que c'était possible qu'on en ait 300. On y est allé à notre rythme. On va y aller.
Donc on arrive vers les socios au Red Star dans 15-20 ans, par exemple.
Socios, ou en tous les cas, remplir les stades et avoir des sièges qui se passent de famille en famille et de génération en génération. On va fêter nos 120 ans cette année, enfin en 2017. Putain, on a vu les trucs. S'il y avait un petite souris qui pourrait parler et qui vit depuis 120 ans, elle nous raconterait plein de choses comme sur Red Star.
On parlait de remplir des stades. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, vous jouerez à Jean-Bouin. On imagine que ça a un coût de louer un stade. Mmh. C'est combien, par exemple, dans l'année?
On va payer... on s'est engagé à... on a signé une convention entre la mairie de Paris et le stade français d'un 1,3 million.
Et ça n'empêche pas de faire un transfert, par exemple?
Non, mais ça fait partie de la progression. Je suis obligé de prendre ce risque. Parce que justement, je vais me mettre au risque de remplir ou de ne pas remplir. Et je veux voir si le Red Star a la capacité à fédérer, à générer du monde en stade.
Mais au-delà de remplir, est-ce que c'est pas dérangeant d'avoir sur la même pelouse une équipe qui joue au rugby, donc qui va déglinguer un peu la pelouse, parce que c'est le principe, et vous derrière, forcément pas la même semaine j'imagine, mais parfois peu de jours d'intervalle, de jouer sur une pelouse.
Vous qui aimez Monaco, j'ai vu des pelouses très mal tendues.
Oui, mais bon, ça, c'est parce qu'il y a le parking en dessous.
Il y a le parking. Mais moi, je préfère avoir une salle de rugby qu'un parking en dessous, un club de rugby qui a un parking en dessous. Parce qu'on a l'avantage d'être dans un stade qui a été conçu pour le rugby. Et ce stade conçu pour le rugby est une atmosphère de football extraordinaire. Parce qu'il n'a pas les contraintes du football réglementaire qui a peur de tout, qui a peur des skinheads, qui a peur des machins, des hooligans, ça a peur des machins. Donc, c'est dans un esprit rugby qu'on est là. Et moi, cet esprit rugby, il me plaît. Alors si il va y avoir 2-3 matchs où la pelouse sera pourrie, ok, on est passé par d'autres choses, le club est passé par d'autres choses plus compliquées. Mais moi, l'esprit, là, quand j'y vais le matin, je croise les rugbyman, les machins dans le stade, j'aime, ça me plaît. Hein. Franchement, je me sens très très bien dans cette confrontation rugby-football, et qui est une hospitalité qui aurait pu ne pas être... c'est très facile de dire non, hein. Ils m'ont dit oui. Mais c'est très facile de dire non.
Le Stade français.
Bien sûr.
Mais apparemment, avant, Anne Hidalgo, la maire de Paris, n'était pas...
Parce que c'était une convention. Mais bon, à partir du moment où le Stade français a dit oui, on veut bien étudier, bon, ça a ouvert les esprits de tout le monde. Mais Thomas Savard ou Pierre Reynal, Pierre Arnald du Stade français auraient pu très vite dire non, 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 non. Comme tout le monde fait, hein. On vous ferme la porte. Il suffit d'une minute pour vous fermer la porte. Hein. Oui, bonjour, c'est pourquoi ? Ah non, boum. C'est comme ça que ça se passe. Hein. J'étais jusqu'à Beauvais pour les jouer. Ouais. Et même là, j'ai eu un problème avec le club de CFA2 de là-bas, qui était contre. Ils ont fait l'enfer pour jouer là-bas. Qui voulaient jouer avant nos matchs en CFA2 pour nous mettre une pelouse pourrie. Voilà la mentalité d'état d'esprit. Je ne le conçois pas. On a fait low profile, on a joué là-bas, on est parti doucement. Mais la médiocrité de la pensée du partage est terrible.
Dans les problèmes, est-ce qu'il n'y a pas tes supporters, enfin les supporters du Red Star aussi, les irréductibles, qui veulent absolument pas quitter Boer et qui se disent que ce moment-là, c'est une phase de transition pour aller vers un autre stade. Et entre guillemets, qu'on perd un peu l'âme du club.
Je les ai vus, j'ai reparlé avec eux, je leur ai dit le fait de revenir ici me permet de reconsidérer Boer. Et de deux choses. De montrer la capacité que Boer doit avoir. Si je mets 20 000 dans le stade, c'est compliqué. Parce que Boer, d'après moi, va pouvoir faire maximum 10 000 en reconstruction. Alors donc, ça veut, comment on réfléchit à ça ? Si je mets 10 000, si je mets 5 000 la première année, 10 000 la deuxième, qu'on sent qu'il y a une animation, il faut réfléchir à tout ça. Donc, ils sont d'accord pour partager avec moi la réflexion de l'analyse de tout ça. Et puis, d'étudier parallèlement la reconstruction de Boer. Mais moi, je respecte. Moi, j'adore Boer. Autrement, j'y serais même pas allé au ça. Personne ne peut m'accuser de ça. Parce qu'autrement, j'aurais été dans des stades ou dans des clubs, dans des grands stades, tout de suite. Mais la conseillère de Boer me convient. Après, il y a une réalité économique, il y a une réalité géographique, il y a une réalité de contexte local à analyser maintenant. Il faut être mature par rapport à ça.
Mais justement, pour faire grandir le club, même si le cœur est à Boer, la tête dit peut-être qu'il va falloir changer.
En tous les cas, on le fera en concertation.
Donc par exemple, si tu me dis que l'année prochaine, il y a 20 000 personnes à Jean-Bouin toutes les semaines, mais que les supporters te disent...
Mais
je
ne pas.
Hein. Je te le souhaite, mais on ne sait jamais. Il y a 20 000 personnes toutes les semaines, mais qu'après, les supporters te disent...
Qu'après votre émission,
J'espère. Non mais voilà, et qu'après les supporters te disent non, nous on veut rester à Boer, même si c'est 10 000, tu restes à Boer, quitte à perdre 10 000 personnes tous les week-ends.
C'est l'équilibre d'un club, c'est... Non, on n'a pas le droit, en tous les cas, de fermer les portes à un public potentiel. Non. C'est pas possible. C'est, ou alors, effectivement, on devient un artisan du football, il faut rester un club amateur. Mais si on a des vilités de développement, etc., faudra l'analyser, faudra voir un peu ce qui est possible. Alors, quelques affiches à... la plupart des affiches à Boer, quelques affiches ailleurs, le contraire, enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. L'équipe réserve, si elle est en CFA,
voilà. Ça peut se tenter.
Ça peut se tenter, tout se tente.
Mais merci beaucoup, en tout cas.
Un plaisir. Merci, avec plaisir. C'est passé vite, hein.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, l'émission d'aujourd'hui est produite par Julien Neuville. Monté par Zaki Halal, qui ne fait pas partie de ma famille. Le générique est de Aurore Maillemeyer et Mehari. Un de ces types perdus qui disent chocolatine ou de pain au chocolat, enfin n'importe quoi. Bon, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à Banquette, très important. Parce qu'il faut nous aider à payer toutes ces putains de chaînes de foot. Hein, parce qu'entre Bein Sport, SFR Sport, Canal+, tout ça, je suis à deux doigts d'aller vendre des piscines à la Guivarche. Et j'ai pas envie. Donc aidez-moi, merci. Si vous savez pas très bien comment on fait ça... Bah vous allez faire un tour sur nouvellesécoutes.fr, il y a toutes les infos. Nouvelles écoutes au pluriel, je le rappelle. Enfin, n'oubliez pas, 5 étoiles sur iTunes les copains. Ça serait dommage que j'envoie Cyril Roll vous refaire les genoux. Hein. Donc vous allez mettre les petites étoiles. Allez, je vous laisse, à dans deux semaines. Allez Monaco ou Daguet Monégo en monégasque. Des bisous à tous.